Nous sommes à Japan Tour Festival avec un conteur de Rakugo, Cyril Copini. Bonjour.
Bonjour, enchanté.
On vous a vu là sur votre pièce, oui. C'est comme ça qu'on dit ?
Sur scène, oui, c'était une pièce, oui, une histoire.
Comment est-ce que vous êtes venu au Rakugo ? Parce que pour nous, c'est une première.
Moi, je vis au Japon depuis 20 ans. En fait, le Rakugo, c'est ce qu'on appelle le conte humoristique japonais. Alors, quand on dit conte en français, on a tendance à penser que c'est quelque chose qui s'adresse aux enfants, en bas âge, généralement. Mais en fait, le Rakugo, c'est vraiment plus que du conte. C'est aussi, comme on dit en bon français, de l'acting, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on a, dans sa définition la plus simple, c'est un conteur qui est assis sur les genoux, sur un gros coussin, et qui est vêtu d'un kimono, et qui va jouer une pièce en interprétant tous les personnages de cette histoire. Donc il y a un petit côté théâtre, il y a un petit côté conte, c'est vraiment un ensemble. Il y a un peu de mime aussi, c'est vraiment un ensemble artistique qui tient dans un seul carré, le carré du conteur comme on dit, et l'histoire que ce conteur raconte a généralement une chute humoristique. Donc c'est un art traditionnel, hein, vraiment oral, japonais, qui a plus de 400 ans et qui se transmet maintenant encore de génération en génération. C'est vraiment une culture orale très très forte, il y a peu de textes. Ou en tout cas, bon, les jeunes générations aussi se basent sur des textes anciens et font des adaptations modernes. Il y a toujours aussi une part d'improvisation qui est assez importante, hein, c'est-à-dire on peut glisser des faits d'actualité dans une histoire qu'on raconte, même si cette histoire date de 300 ou 400 ans. Et c'est vraiment un art qui est extrêmement connu, extrêmement, c'est un art populaire, hein, au Japon. En France, en Europe en général, en tout cas en Occident, on est souvent... On connaît un peu le kabuki parce que c'est coloré, il y a du mouvement, c'est des grosses productions, il y a des gros décors, des choses comme ça. On connaît le no, qui est un peu plus mou quand même, mais en tout cas beaucoup plus traditionnel. Et le rakugo, finalement, on ne connaît pas parce que rakugo, littéralement, ça veut dire parole avec une chute. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment un art de la parole et c'est assez difficile à transmettre aussi quand ce n'est pas en japonais. Il y a des éléments linguistiques qui font que le rakugo existe parce que ça vient du japonais aussi. Ça a été pendant très longtemps assez difficile à transmettre, en tout cas hors du Japon. Et là, bon, je suis pas tout seul. Hein, j'ai un acolyte aussi qui s'appelle Stéphane Ferrandez, qui partage la scène avec moi, qui lui est installé à Paris. Et depuis quelques années, on essaye de présenter le rakugo en français au public français et francophone.
Vous disiez difficile des fois à traduire, c'est parce que y a toujours cette notion quand on voit un kanji, ça dit quelque chose, alors, mais la façon dont on le prononce, ça peut avoir quelque chose d'autre, des sortes de jeux de mots comme ça.
Non, c'est pas ce que je veux dire. En fait, c'est pas un problème de traduction, c'est un problème de niveau de langage. C'est-à-dire que comme je vous disais, notre conteur qui est à genoux avec son kimono et généralement aussi est imberbe. Enfin, en tout cas, il n'a pas de poils, il n'a pas de moustache ou pas de barbe, et il ne porte pas de lunettes. Pourquoi ? Parce que ce conteur qui va jouer tous les personnages de son histoire peut à un moment donné jouer une femme, par exemple, ou un petit enfant. Alors, une femme avec une barbe ou un petit enfant avec une moustache, évidemment, on s'éloigne un peu de la réalité. Et il y a aussi autre chose qui est très important dans le rakugo, c'est ce qu'on appelle mejikara, c'est-à-dire la force de l'œil, c'est-à-dire le regard intense, tout ça c'est très important. Donc, porter des lunettes, ça peut gêner. Et porter donc, je vous dis, une moustache ou une barbe, ça peut gêner aussi quand on joue un personnage qui n'est pas censé dans la réalité en porter. Ceci étant dit, dans la langue japonaise, on a souvent des intonations ou des fins de phrases qui font que tout de suite on sait que c'est une femme qui parle ou un petit garçon ou une petite fille. Ça, ce sont des phénomènes linguistiques qu'on n'a pas en français. Ce qui fait que vous écoutez un conteur japonais qui va faire une pièce de rakugo en japonais, il infléchira jamais sa voix, il changera jamais sa voix pour dire « Ah, je vais faire une femme maintenant ». Oui, il y a pas de... Et là, je vais faire un gros bonhomme qui parle. Il n'y a pas ce genre de changement, parce que en japonais, il suffira de dire « Daijoubu kashira ». Avec ce mot « kashira », c'est un mot qui est utilisé par les femmes, et on saura tout de suite qu'il joue une femme. Et en français, on n'a pas ce genre de phénomène, donc on est obligé de changer la voix, de prendre une voix un peu aiguë ou plus grave quand on fait un homme. Et tout ça n'existe pas finalement dans la langue japonaise. ce qui fait que ça passe vraiment comme une lettre à la poste, quoi.
Des contes, on a toujours l'impression que c'est des choses anciennes. Il y a des nouveaux contes qui sont inventés par des artistes japonais actuellement ?
Complètement. Alors effectivement, la majorité du répertoire... Il y a beaucoup d'histoires qui viennent du bouddhisme, en tout cas qui sont des références à l'enseignement du bouddhisme à l'époque d'Edo. Hein, je vous parle de ça, c'était au XVIIe siècle, hein, quand, ou même encore plus avant, c'est-à-dire quand le bouddhisme est rentré au Japon, les bons étaient obligés de trouver des artifices pour alimenter les foules, hein, qui n'étaient pas lettrées non plus à l'époque. Donc se planter devant des gens et leur parler de préceptes ou de concepts bouddhistes, bon, c'était pas évident. Donc il fallait trouver un petit truc humoristique, en tout cas, pour amener l'histoire et puis pour amener les enseignements qu'on voulait. Donc il y a effectivement pas mal d'influences bouddhiques dans beaucoup d'histoires. Et puis... après, il y a beaucoup de jeunes... Alors, un jeune conteur professionnel, en général, il a 50-60 ans. Hein, parce que il faut faire une longue formation avant d'arriver au niveau professionnel. Et finalement, il y en a beaucoup, oui, qui se basent sur du traditionnel et puis qui mettent leur touche moderne. Oui, alors vous avez vu le spectacle, donc vous avez pu voir de vos propres yeux que le conteur utilise deux accessoires, un éventail et un carré de tissu. Qui permettent de mimer les gestes du quotidien. Alors, comme beaucoup d'histoires prennent leurs racines à l'époque Edo, au XVIIe siècle, on a par exemple avec le carré de tissu, le portefeuille de l'époque, qui a un long portefeuille un peu qu'on fermait avec une ficelle, alors on mime ce genre de choses. On a aussi, on peut fumer hein, avec l'éventail, alors on fume une espèce de pipe en fait de l'époque. Donc ça, c'est des éléments qui existaient au XVIIe siècle, qui n'existent plus maintenant, mais qui sont encore... Enfin, que tout japonais lambda comprendra tout de suite, parce que voilà, ça fait partie de sa culture. Maintenant, il y a des conteurs qui inventent aussi des histoires, et avec leur carré de tissu, ben, ils jouent à la Game Boy. Vous voyez, ce genre d'adaptation est tout à fait autorisé.
Et vous avez souhaité, du coup, transmettre aussi toute cette culture-là avec des ouvrages qui sont imprimés et disponibles maintenant en français, dont vous avez assuré la traduction.
Voilà, absolument. Donc j'ai découvert un manga qui s'appelle Le Disciple de Doraku en français. En japonais, c'est Doraku Musuko. Il y a maintenant, je crois que c'était en 2011, donc ça fait déjà 4-5 ans. En fait, pour être très honnête avec vous, j'ai jamais été intéressé par le manga. Je vis depuis 20 ans au Japon, je parle et je lis japonais. Il y a plein de gens qui me disent, mais comment ça se fait? Tu es bilingue et tu ne lis pas de manga? J'ai dit, bon, non, ça ne m'intéresse pas. Bon, bref. Et en fait, quand j'ai découvert ce manga, moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir trouver un moyen de faire connaître le Rakugo. Et là, je me suis dit, bon, il y a ce manga, il faut absolument trouver un moyen de le sortir en France. Et ça s'est fait au bout de 2 ans. Donc, je remercie l'éditeur Isan Manga qui a bien voulu prendre le risque, hein, parce que c'est quand même un risque, c'est vrai. On se dit, tiens... personne ne l'a jamais fait, donc bon, il y a des gens qui peuvent rester frileux et se dire bah, personne ne l'a fait, je ne vais pas le faire moi. Bon, eux, ils l'ont fait, donc merci beaucoup. Et du coup, ce titre, c'est un bon choix dans le sens où il y a énormément de productions autour du Rakugo au Japon. Il y a d'autres mangas aussi, mais il y a d'autres mangas qui sont déjà. Il faut déjà avoir une connaissance, je dirais, du Rakugo pour rentrer dedans, parce que ça fait référence aussi à des histoires. Qui sont déjà assez compliqués à comprendre. Plus, il y a une intrigue qui se met dans le manga. Donc, c'est pas évident à transmettre. L'avantage du disciple de Doraku, c'est que c'est plus un documentaire, en fait. C'est vraiment l'histoire d'un jeune instituteur qui un jour voit du Rakugo sur scène et tombe amoureux et décide de devenir disciple du maître qu'il a vu sur scène. Voilà, à partir de là, sa formation commence. Est-ce qu'il va y arriver ? Mais c'est vraiment un enseignement de la vie, un enseignement, une formation qu'on suit. Et alors, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a des gens qui lisent le manga en se disant « Tiens, je connaissais pas cet aspect du Japon ». Enfin, ça rigole pas, quoi, pour arriver à faire quelque chose. Et puis après, il y a aussi des histoires de Rakugo qui sont mises en image. Donc, il y a ce deuxième niveau de lecture. Une fois qu'on a dépassé, parce que c'est... Ça nous dépasse quand même vraiment, ça n'a rien à voir avec la pensée occidentale ou française de se dire je vais me perdre corps et âme pour un art à ce point-là. Enfin, c'est quand même un truc assez dingue hein, dans notre pensée judéo-chrétienne. Et après, le deuxième niveau de lecture, une fois qu'on s'est intéressé et penché là-dessus, c'est ah bah tiens, il y a ces histoires, C'est oui, c'est rigolo, c'est effectivement. Donc il y a on peut vraiment apprécier le manga de ces deux niveaux quoi. Donc oui, je vous recommande de le lire si vous voulez vous intéresser un peu plus sur le Rakugo.
Donc là, deux ouvrages qui sont disponibles déjà, deux voilà. Chapitres, deux tomes, alors, un troisième qui est en projet.
Oui. Alors dans un tome français en fait, il y a deux tomes japonais. Donc si vous voulez, dans les deux tomes français, il y a les quatre en fait japonais. Le troisième qui devrait sortir au mois d'avril, donc ce sera le 5 et le 6. Je suis en train de traduire le 7 et le 8, donc ça sortira je pense d'ici la fin de l'année. Donc c'est la forme du tome 4 français. Pour l'instant il y a 12 tomes au Japon, hein, donc on n'a pas encore fini.
Vos prochaines représentations?
Ben là, je rentre au Japon bientôt, et puis mes prochaines représentations, ce sera au Japon, à Osaka, à partir du 9 mars. Donc, si vous voulez prendre un billet d'avion, il y a peut-être un billet d'avion à gagner, non?
Oui, avec pour le cosplay.
Festival, voilà. Bon. Et en France, non, pour l'instant, j'ai pas de projet. Alors, je fais des tournées avec des maîtres japonais depuis 2 ou 3 ans, assez régulièrement. J'en ai fait une dernièrement en décembre 2015. Donc là, cette année, je me pose un petit peu. En tout cas, en France, ce sera probablement en 2017. Par contre, après, moi, j'ai des projets. J'ai la Nouvelle-Zélande en avril. Si tout va bien, le Danemark en juin. Et la Nouvelle-Calédonie à la rentrée, septembre. Voilà. Il faut que je me mette à l'anglais maintenant. Ça, c'est embêtant.
Vous êtes le dernier être humain sur Terre.
D'accord.
Et vous allez finir vos jours avec un des 5 robots que je vais vous présenter.
Avec un des 5 robots, d'accord.
Et vous allez choisir celui qui vous plaît le plus ou qui vous déplaît le moins. Vous avez le choix entre Baymax, Wally, C3PO, le T800 ou Astro. Pour finir vos jours.
Pour finir mes jours,
oui.
Astro, ouais. Ouais. Ouais, C3, il parle trop. Moi aussi, vous me direz, mais lui, il parle vraiment trop. Le T800, oui, il fait peur hein, quand même. Hein. Et puis oui, Astro Boy, il doit être sympathique. Oui, Astro Boy.
Merci.